La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Mabrouk Rachedi pour « Tous les mots qu'on ne sait pas dit », un roman publié aux éditions Grasset. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, j'aimerais lire un passage de votre roman qui nous donnera une idée de l'histoire que vous racontez. « Ma mère ne sait rien de la fête qu'on lui prépare. Elle ignore même que c'est son anniversaire. Elle a perdu le décompte des jours avec l'âge. À 70 ans, on n'est pourtant pas si vieux, sauf quand on a connu la guerre, 10 accouchements, les bidonvilles, puis les banlieues. Elle porte autant le poids de l'âge que des vicissitudes. » Alors je trouve que ça donne le ton de ce roman, Mabrouk Rachedi, un roman très tendre sur la famille, sur l'amour d'un fils pour ses parents. Les enfants de Fatima décident de lui offrir cette croisière sur la Seine pour ses 70 ans, avec l'idée de lui montrer la tour Eiffel qu'elle n'a jamais vue. Alors ça, c'est un ressort narratif extrêmement beau. Elle habite en région parisienne, elle a même habité à Paris, mais elle n'a jamais vu la Seine.
Et figurez-vous que c'est exactement ce qui est arrivé à ma mère, en fait. À ma mère, hein, qui est venue en France, d'Algérie, et qui a, la première ville où elle habitait était Paris. Elle était à quelques kilomètres de la tour Eiffel, et elle n'avait jamais vu la tour Eiffel. Et donc ce ressort narratif, comme vous le dites, si loin, si proche finalement d'un symbole de la France, et alors qu'elle est elle-même en France, qu'elle est elle-même à Paris, et alors même qu'elle est à Paris, elle est déjà quelque part en marge d'un Paris, déjà en banlieue d'un Paris, alors qu'elle est à Paris intramuros. Cet éloignement va se figurer effectivement quand elle ira en plus en banlieue. Donc voilà, c'est ce si loin, si proche qui m'a fasciné, qui m'a interrogé aussi dans tout ces romans.
Alors, un roman qui est structuré d'une manière très intéressante, puisque vous faites des allers-retours vers le passé, et je dirais le refrain du roman, c'est cette croisière sur la Seine. Chaque étape est décrite, et puis on plonge un peu dans la vie de cette famille qui a traversé l'histoire, qui est un témoin de l'histoire.
Voilà, c'est en fait à chaque pont en fait de Paris, il y a une résonance d'histoire en fait qui renvoie à la grande histoire de France, mais aussi à l'histoire familiale de la famille Asraoui. Donc et c'est vrai que je vais jouer avec la chronologie parce que le moment qui se passe sur la péniche et peut s'expliquer par un événement qui a eu lieu, allez, il y a 10 ans, ou un autre qui a une explication il y a 30 ans. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié la question du sens, donc il ne suit pas forcément une question chronologique, hein, un sens chronologique à la chronologie elle-même. Donc cette construction-là est une construction liée au sens. Hein.
Et donc cette croisière a lieu en 2005, au moment où les banlieues s'embrasent. C'est aussi un moment de l'histoire de France.
C'est aussi un moment de l'histoire de France. Et vraiment, tout au long de ce roman, la grande histoire dialogue avec la petite histoire. Et dans les émeutes, on peut voir aussi un écho, en fait, d'un passé, en fait, qui a été mal cicatrisé. Donc, oui, ils vivent au présent cette éruption. Certains, d'ailleurs, c'est là où j'ai choisi de mettre en scène plusieurs enfants de cette famille parce que il n'y a pas un regard, il n'y a pas une façon de vivre son rapport à sa famille, à un pays, à des pays, en l'occurrence la France et l'Algérie. Et donc, chacun a construit un parcours très différent. Et des regards très différents, parfois des amertumes, mais aussi des amours qui sont très différentes en fait. Donc voilà, ce roman choral, cette polyphonie pour moi était aussi très importante pour ne pas figurer un parcours type, parce que l'archétype pour moi n'existe pas, mais pour voir plusieurs façons d'être, plusieurs façons de se construire, plusieurs façons d'aborder l'identité. Et c'est voilà.
Et cette réunion de famille sur la scène est d'autant plus émouvante, Mabrouk Rachedi, que Fatima a de graves problèmes de santé.
Oui, elle a de graves problèmes de santé. Alors voilà, c'est vrai que c'est l'âge et toute la famille en fait, et surtout une personne, sa fille aînée, qui s'est totalement dévouée pour elle. Elle est infirmière dans la vie et elle devient quasiment l'infirmière particulière de sa mère. Donc ça induit un rapport à l'autre, à la mère, mais aussi à l'urgence aussi de transmettre, parce qu'il est question aussi d'histoire. Et s'aperçoit que les personnages du père et de la mère, alors avec des temporalités alternées, ont besoin de transmettre, alors qu'ils se sentent en fin de vie en fait. Et donc ça figure aussi effectivement, voilà, c'est ce avec la disparition physique des personnes, il y a des pans de l'histoire qui sont menacés de disparaître, et donc profiter des gens aussi tant qu'ils sont là, tant qu'ils peuvent témoigner de leur temps, qui sont aussi notre temps en fait, et en prendre conscience que nous faisons partie d'un continuum historique et que nous sommes des héritiers d'une histoire, et pour le meilleur et pour le pire, parce que on a parlé aussi donc de maladies, aussi de vicissitudes, etc., etc., mais il y a aussi de l'amour dans ce roman. Et moi j'aime bien l'idée que au tout départ, comme cette famille s'est fondée, comment les deux personnages des parents, Mohand et Fatima, se sont connus, c'est en bravant quelque part un interdit, parce que elle était promise, Fatima, à un autre Mohand en Algérie, en Kabylie, et finalement elle a choisi elle ce trublion qui aime raconter des histoires que tout le monde voit comme dans le village comme un original, si ce n'est un fou. Et voilà, et donc c'est ce choix, cet élan du cœur qui l'a porté et qui a aussi construit cette identité familiale.
Alors c'est un très beau roman, hein. Tous les mots qu'on ne s'est pas dit de Mabrouk Rachedi. C'est un roman qui rend hommage à la première génération des immigrés, ceux qui se sont installés en France dans les années 60, à travers l'histoire de cette famille. C'est l'histoire de millions de personnes finalement que vous nous racontez.
Alors je ne sais pas en fait, c'est ce qui est troublant en fait quand on écrit un roman, c'est que on essaye d'avoir une voix singulière, et donc j'essaie vraiment de raconter une histoire, pas l'histoire de milliers, de millions, parce que j'aurais très peur en fait de figurer des symboles en me disant voilà, et d'essayer de faire vivre des symboles. Moi je pars du particulier, et j'espère que ce particulier, ce singulier va résonner dans l'universel, même si c'est un peu prétentieux de penser ça, mais au maximum, enfin auprès du maximum de personnes. Mais ce qui est, et c'est là où ce que vous dites me touche en fait, et c'est que et j'ai eu beaucoup d'échos de lecteurs effectivement qui me disent oui, j'ai vu une part de mon histoire, j'ai vu des y compris des histoires intimes, familiales intimes, et aussi un rapport à l'histoire, avec un grand H. Et donc, oui, c'est des personnes qui se sont reconnues dans cette histoire très singulière.
Et ce qui est émouvant aussi dans ce roman, tous les mots qu'on ne s'est pas dit, Mabrouk Rachedi, c'est que vous entrez dans les pensées de vos personnages, qui se demandent s'ils ont pris les bonnes décisions, partir, rester. Vous montrez aussi ce que c'est qu'être une femme d'ouvrier immigré qui vit loin de son mari qui habite en France. Puisque vous racontez aussi le moment où Fatima n'a pas encore rejoint la France dans le cadre du regroupement familial.
Oui, ce sont des voies importantes. En fait, on a dans le cadre de la guerre d'Algérie, on a beaucoup mis l'accent sur ceux qui vivaient hein, la guerre in situ, et elle la vit, elle Fatima, mais elle la vit dans l'absence de son mari. Et elle la vit aussi dans sa chair, hein, vraiment. Alors, je vais pas trop en dire. Et elle en souffre profondément. Mais il y a aussi cette façon d'être séparé de celui qu'on aime, cette façon de devoir tenir sans avec auprès de sa famille, heureusement, parce que donc c'est ses parents, mais séparé de son mari. Et c'est vraiment. Moi, dans mes livres, de plus en plus, j'ai envie de faire entendre aussi des voix de femmes, parce que les femmes, on n'a pas beaucoup entendu, pas assez en tout cas, pendant un long moment. Heureusement, ça change, hein, et je veux participer aussi à ce changement en montrant ces héroïnes du quotidien.
Alors justement, vous nous racontez finalement la surprise qu'est la vie en France, puisque Fatima ne s'attend pas vraiment à vivre comme elle va vivre. Je vais citer encore un extrait de votre roman. Mohand n'a pas non plus prévenu sa femme qu'il vivrait dans un petit studio sans eau ni électricité, que toutes les Parisiennes ne s'habillent pas à la dernière mode, que les rues pavées le sont de moins en moins, que les tarifs des cafés chics sont hors de sa portée, que les gens ne se saluent pas comme au pays, que parfois les Français lui lancent des regards noirs et même des insultes. Dans un premier temps, il n'avait pas compris ceux qui le traitaient de bico. Sa connaissance approximative de la langue française l'avait protégé. Quand il avait demandé à ses copains de l'usine ce que ça signifiait, il lui avait menti. Bico, ça veut dire beaucoup en patois du Nord. Tu sais, ils sont bizarres ces gens-là, avec leur accent ch'ti.
Oui, c'est le mari qui essaie de protéger sa femme hein, en lui racontant, en l'usant de son talent de conteur finalement pour lui raconter un Paris idéal et qui elle à la base aussi il y a une carte postale qu'elle a récupérée dans des circonstances très particulières et qui fait que oui il y a un Paris justement avec la Tour Eiffel d'où vient sa dévotion de la Tour Eiffel et des quartiers chics de Saint-Germain etc une carte postale un peu kitsch et voilà ce qui est dans sa tête au moment où elle va vers ce Paris-là. Et oui, il y a un décalage avec la réalité, mais de toute façon, quelle que soit la réalité, elle aurait été déçue parce que rien ne correspond à cet idéal de carte postale. Mais le décalage est abyssal parce que les conditions d'accueil des immigrés sont, à cette époque, j'allais lui dire, mais encore aujourd'hui, sont détériorées et ils vivent dans des conditions vraiment détestables, sans eau courante, dans des bâtiments délabrés et il faut apprendre à vivre dans ces conditions-là et vivre non seulement donc de l'écart à l'image fantasmée avec aussi cette réalité qui est difficile à vivre au quotidien.
Et donc le racisme très présent parce que on est un petit peu après la guerre d'indépendance algérienne.
Oui, il faut entendre les témoignages hein, des gens qui ont vécu ces instants-là et qui le disent vraiment, c'était un racisme qui pouvait s'exprimer de façon très agressive, à visage découvert, et c'était une ambiance terrible à vivre. Et donc voilà, ce mari-là qui a cet avantage de connaître un peu, de maîtriser mieux la langue. Et essaie de vraiment protéger aussi sa femme et aussi lui parce qu'il vivra aussi une relation privilégiée avec Gérard qui est un ouvrier, un camarade ouvrier qui connaît mieux la langue que lui au début en tout cas et qui le protégera aussi de cette façon en lui disant voilà Bico ses camarades lui diront en fait ouvriers lui diront que Bico c'est une déformation de beaucoup donc face à la difficulté du racisme, voilà, difficulté c'est presque un euphémisme, il y a aussi heureusement cette solidarité de classe, cette solidarité familiale qui existe et qui protège.
Vous parlez du personnage de Gérard, le Parti communiste est très présent aussi dans le livre Mabrouk Rachedi.
Oui, alors historiquement, vraiment il y a eu des solidarités entre le Parti communiste et des mouvements de travailleurs algériens et autres d'ailleurs. Donc les engagements communistes, pro-communistes ou proches des milieux communistes ont vraiment existé. Hein. Donc la classe ouvrière, la classe laborieuse a été historiquement très proche de la gauche et on le voit encore aujourd'hui avec les derniers résultats des élections. Finalement, c'est en banlieue que la France insoumise a fait ses meilleurs résultats. Donc oui, c'est difficile de parler de des immigrés, de la vie des immigrés sans parler aussi de cet engagement politique qui c'est soit directement, soit indirectement. Mais à un moment, il y a eu ce lien qui a existé.
Alors c'est un livre vraiment très touchant, Mabrouk Rachedi. Et lorsque vous parlez des problèmes de santé des patients âgés de confession musulmane, vous dites une chose très belle. Vous dites que le personnel, parfois, peut être induit en erreur par les réactions de ces malades parce qu'ils ne se plaignent pas et ils disent « ça va, alhamdoulilah ». On peut croire qu'ils vont bien alors qu'en fait, ils vont mal.
Oui, voilà, et c'est drôle parce que j'avais eu cette conversation avec un sociologue qui m'avait dit qu'il avait été appelé dans des hôpitaux justement parce que les infirmiers, les personnels hospitaliers ne comprenaient pas en fait. Tout allait toujours bien, mais les radios, les IRM disaient que non en fait. Hein. Et lui aussi avait cette culture musulmane et donc en parlant en fait, il avait réussi à décoder en fait ce fait que ah oui, c'est une formule rituelle, ça va par la grâce de Dieu, mais ça va pas forcément, quoi. Parce que finalement, on est prêt à accepter son destin, donc si Dieu l'a choisi, bah, ainsi soit-il.
Alors, dans le roman, il y a un personnage qui s'appelle Malik, et puis on s'aperçoit finalement qu'il est devenu l'écrivain Mabrouk Rachedi, qui est votre nom. Votre nom de plume. Alors, je suis un peu désorienté. Est-ce que c'est votre vrai nom? Est-ce que c'est votre histoire qui est racontée dans ce très beau livre, Tous les mots qu'on ne s'est pas dit?
Alors, je me suis promis de ne jamais dire ce qui relevait du vrai ou du faux, en fait. Moi, je fais des ateliers d'écriture. J'aime bien proposer un jeu qui est de écrire une histoire vraie et une histoire fausse. Et dites l'histoire vraie et dites l'histoire fausse devant le reste du public et on vote pour savoir quelle est la vraie, quelle est la fausse en fait. Donc essayer d'apprendre à
mentir,
brouiller les pistes, brouiller les pistes, mentir peut-être. Je leur dis parfois en blaguant que mon métier c'est de mentir vrai. Donc et j'aime bien maintenir cette ambiguïté. Alors voilà, il y a un peu de vrai, un peu de faux, mais à quelle proportion je ne le dirai pas.
Et vers la fin du roman, il y a un secret de famille que je ne dévoilerai pas, qui est lié au passé de la mère, un secret lié à la guerre d'Algérie. C'est un moment poignant du livre.
C'est un moment poignant, j'ai beaucoup de mal à l'écrire et j'ai beaucoup de mal à le relire aussi, parce que quand on l'écrit, on est dans un mouvement, et quand on le relit, ben, on est plus dans l'intellectualisation, donc on réalise vraiment pleinement ce qu'on a écrit. Voilà, c'est difficile de parler sans trop en dire. C'est vrai que c'est quelque chose de, c'est un secret de famille qui pèse comme une épée de Damoclès, mais qui est invisible pour le coup. Personne ne sait que ça existe et on va le découvrir. Un personnage va le découvrir et tous les mots qu'on ne s'est pas dit, bon, bah, c'est aussi cela, quoi.
Merci Mabrouk Rachedi d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient. Je recommande à tous nos auditeurs ce très beau roman, Tous les mots qu'on ne s'est pas dit, aux éditions Grasset. Merci Mabrouk Rachedi.
Merci Loïc.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.